Ce week-end, je me suis effondré quand j'ai lu le témoignage d'Aurélie Sylvestre au procès des attentats de Paris, qui a été sur notre site publié in extenso. Je les avais pourtant déjà lus en partie, ces mots, dans les paroles des autres témoins, dans les livres qui en ont été tirés pour ne pas oublier, dans le sien, qui s'appelait « Nos 14 novembre » et qui m'avait marqué il y a quelques années. Mais ces mots-là, qu'elle a prononcés jeudi dernier, m'ont bouleversé. C'est son histoire qu'elle dépose à la barre, littéralement, pour clore quelque chose. Elle dit qu'elle raconte pour la dernière fois ce qui s'est passé et au passage, qu'elle remplit ici, dans ce procès, un peu davantage ses cuves d'humanité. Dans quelle mesure ces mots peuvent-ils consoler, c'est-à-dire apporter un réconfort, mais aussi compenser, ça veut dire ça, consoler. Vous l'avez peut-être vu passer ce texte, vous l'avez peut-être même partagé, vous avez sans doute voulu que d'autres le lisent pour éprouver ou exorciser quelque chose. Après tout, ce sont des mots entièrement dédiés à la vie. S'il y a toujours ce sentiment de tristesse et de gâchis qui vous envahit, est-ce que ces mots consolent pour autant? Oui. Quand elle raconte à ses enfants les héros de ce soir-là, quand elle explique le sens de la justice par ce qui est équitable, quand elle nous parle de la salle d'audience comme d'un pays dans lequel elle voudrait vivre, les mots d'Aurélie Sylvestre savent consoler en même temps qu'ils font pleurer. C'est suffisamment rare pour leur marquer.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui interroge autant les limites des mots que leur puissance romancière partagée entre les États-Unis et le Nigeria. Elle est devenue une des figures du féminisme et l'une des grandes penseuses de ces dernières années. Note sur le chagrin, son nouveau livre vient de paraître dans une traduction de Mona de Pracontal. Elle y raconte la disparition de son père en pleine pandémie. C'est un très beau texte au cœur duquel cohabitent l'indicible, l'amour et la transmission. Bonjour Chimamanda Ngozi Adichie.
Hello, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Les mots peuvent-ils consoler?
Oh, I think words can console.
Oui, les mots peuvent consoler. Ils sont peut-être la seule source de consolation. Je trouve de la consolation dans les mots. Et bien avant les circonstances actuelles, puisque je viens de perdre mon père puis ma mère, de manière générale, pour moi, la littérature est souvent une consolation, parce que quand je lis, je me sens moins seule. Ça me console de savoir que quelqu'un a éprouvé ce que je ressens.
Pour autant, il arrive que le chagrin mette la langue en échec.
À
la mort de mon père, pour la toute première fois de ma vie, les mots me manquaient. Je n'arrivais pas à exprimer pour moi-même ce que je ressentais. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai été tellement sidérée par le chagrin, si surprise, que je me suis mise à écrire pour trouver les mots.
Dans le cas de ce livre, Notes sur le chagrin, consacré donc à votre père, vous écrivez sur lui au passé. Quel temps est-ce que c'est pour vous, le passé, Chimamanda Ngozi Adichie?
C'est encore, même maintenant, mon père est parti depuis un an et c'est encore difficile de parler de lui au passé. Il y a quelque chose dans le passé qui dit que c'est fini. Et je refuse que ce soit fini. Je me souviens, peu après sa mort, je m'entêtais à parler de lui au présent, puis je me souvenais et j'utilisais le passé. Puis je me culpabilisais d'avoir utilisé le passé parce que ça voulait dire que j'acceptais le fait qu'il soit parti pour toujours.
Mais dans quelle mesure écrire, le simple acte d'écrire sur votre père, c'est peut-être justement une façon de le rendre éternellement présent?
I like that.
Ça me plaît, cette idée.
Not only to remember him for myself,
je ne voulais pas seulement rassembler mes souvenirs de lui pour moi-même, mais je voulais aussi que le monde entier le voie. Je voulais dire à tous, maintenant qu'il n'était plus là, et parce que c'est la réalité, que oui, j'ai été élevée par un homme absolument merveilleux, magnifique, et je veux qu'on se souvienne de lui.
Ce père, quel modèle est-ce qu'il a été?
C'était un homme charmant. Il était bienveillant, très intelligent, d'une grande curiosité intellectuelle, très complexe sur le plan mental, mais très simple en tant que personne. Il se désintéressait complètement des choses matérielles. Mon père pouvait porter les mêmes chaussures pendant 20 ans, où est le problème? Ce qui n'était pas le cas de ma mère et de nous autres. Pour son époque, il est né en 1932 dans le sud-est du Nigeria, une région attachée aux traditions. Il était en avance sur son temps par sa grande ouverture d'esprit.
Un modèle de féminisme également.
Si vous aviez demandé à mon père s'il était féministe, il aurait sans doute dit non. Pourtant, il l'était, parce qu'il a élevé ses enfants, ses garçons et ses filles, sans idée préconçue du genre « tu es une fille, donc tu devrais faire ça » ou « un garçon doit faire ça ». Mon père m'a appris la confiance par sa façon d'être avec moi. Il m'autorisait à poser des questions, il me permettait d'être moi-même.
Vous dites, et c'est magnifique, qu'il vous a appris à dire « je ne sais pas ».
Oui. Il m'a si souvent répété que quand on ne sait pas, il faut le dire.
Il faut de la confiance pour ça.
Je suppose, et il m'a aussi appris la confiance. Mais ça ne vaut que si on souhaite apprendre. Si vous ne savez pas quelque chose et que vous le reconnaissez, ça devient une occasion d'apprendre. C'est ce que pensait mon père.
Mais comment vous expliquez qu'aujourd'hui, Chimamanda Ngozi Adichie, l'interrogation semble délaissée au profit de l'affirmation?
Oh, it's terrible.
C'est terrible, je suis vraiment inquiète pour l'avenir de la civilisation occidentale et je ne plaisante pas. Je crois que nous vivons une époque d'autocensure, une époque dénuée d'empathie à l'échelle collective et où les idées sont vouées à mourir parce que tout le monde a peur de dire ce qu'il ne faudrait pas dire.
C'est passionnant, qu'est-ce qui se passe en fait quand on arrête de poser des questions?
C'est fascinant, mais c'est terrifiant aussi. Je m'interroge parfois sur un phénomène qui semble être une invention américaine, parce que l'Amérique a un tel pouvoir culturel, l'Amérique exporte ses problèmes, et le reste du monde importe les problèmes de l'Amérique et les fait siens. Alors cette idée de liberté, liberté de poser des questions, d'apprendre et de grandir, est aujourd'hui violemment remise en cause. Et je crois que les réseaux sociaux y ont largement contribué. Les réseaux sociaux qui ont un potentiel bénéfique. Mais parce qu'on les a dévoyés, mal utilisés, ils sont devenus un moyen d'autopunition. Aujourd'hui, des jeunes partout dans le monde sont terrifiés à l'idée d'être incorrects parce qu'ils se feraient lyncher. Alors, comme on a peur de ne pas formuler une question en termes corrects, on ne la pose pas.
Alors, c'est passionnant. Je vous ai entendu dire qu'aujourd'hui, on vivait dans un monde où il fallait parfois s'excuser de penser. Qu'est-ce que vous voulez dire?
We do. It's terrible.
Mais c'est vrai, c'est affreux.
I'm a believer in...
Je crois au libre-échange des idées. Je crois aussi que les discours de haine se combattent avec les mots, par d'autres discours, pas par le silence. C'est important de ne pas répondre par le silence, parce qu'on ne se débarrasse pas comme ça des idées néfastes. Si vous ne parlez pas, ces idées néfastes vont prospérer. Mais si vous les contrez par des mots, c'est plus efficace. Je n'aime pas la censure. J'ai grandi sous une dictature militaire. Je ne supporte pas qu'on dise à quelqu'un « vous n'avez pas le droit de dire ça ».
Qu'est-ce qui fait pour vous, Chimamanda Ngozi Adichie, de la littérature un espace qui résiste au diktat de l'affirmation, un espace qui autorise la pensée et le questionnement, justement?
Mais c'est pour ça que je suis inquiète pour l'avenir de la civilisation occidentale. Je m'interroge sur ce que sera la production artistique dans 20 ans et sur la production littéraire à venir, parce que nous avons créé un environnement qui ne se prête pas à la recherche créative. Pour créer de la littérature, il faut pouvoir poser des questions. Il ne faut pas avoir peur de déranger. Non pas dans le but d'offenser quiconque, mais il faut être prêt à déranger si c'est le sens de notre art. Aujourd'hui, on s'interdit de poser des questions, on marche sur des œufs, il faut être hyper prudent, les gens surinterprètent vos propos et vos gestes. Cela a forcément des répercussions sur la littérature et ça m'inquiète beaucoup. Je ne veux pas d'une littérature trop prudente. Nous avons besoin de, même pas seulement de liberté, mais d'une certaine folie pour créer. Et ça, on ne nous l'autorise plus. Sérieusement, je me demande ce que sera le roman américain dans 20 ans. Ce sera affreux. Tous les personnages seront convenables, entre guillemets. Or, ce qui nous caractérise, nous les humains, c'est justement qu'il nous arrive de faire des choses que nous ne devrions pas faire. C'est cet espace qu'explore la littérature.
On parle de questionnement. Y a-t-il, à vos yeux, une question qui restera à jamais sans réponse? Chimamanda Ngozi Adichie.
Que se passe-t-il quand on meurt? J'y pense beaucoup ces derniers temps.
Celle qui ne se pose aucune question. Dans cette émission, vous la connaissez, c'est la culture et son actualité lapidaire est trop sûre d'elle. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 25 octobre?
Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Vidocq?
Vidocq? Le forçat évadé?
Le réalisateur et metteur en scène Marcel Boual est mort samedi. Il avait 96 ans, pilier de l'âge d'or de la télévision française. Il avait marqué l'histoire de la création audiovisuelle en devenant l'un des premiers à porter à l'écran des pièces de théâtre classiques. Hugo, Beaumarchais, Dostoïevski, mais surtout Molière et son Don Juan, incarnés par Michel Piccoli et Claude Brasseur. Pionnier du feuilleton télé, il restera le créateur de la mythique série Vidocq, immense succès et classique du genre, adapté des mémoires du célèbre bagnard devenu policier.
Et vous peignez quel genre de peinture?
Je crois que c'est de l'abstrait.
Oh, mais j'adore l'abstrait!
Mais j'adore l'abstrait!
Clic-clac, la FIAC dans la boîte, événement majeur du calendrier Arty, la foire internationale d'art contemporain à Paris s'est refermée hier pour son grand retour en présentiel et pour la première fois sous les ors du Grand Palais éphémère face à la Tour Eiffel, la manifestation a réuni près de 175 galeries venues de 25 pays et des œuvres de quelques-uns des plus célèbres artistes au monde, Georges Beislitz, Christo ou encore Alice Neal. On a aussi profité du parcours hors les murs proposé à tous et gratuitement dans les rues de la capitale avec le fabuleux Dragon de Calder, Place Vendôme, ou encore le parcours Arty du Jardin des Tuileries. C'était si bien, merci. Les Gilles en famille, la Philharmonie de Paris déroule ce soir rouge tapis à l'immense musicien brésilien Gilberto Gil. Le temps d'un concert unique, le pionnier du mouvement tropicaliste, architecte d'une musique tout à la fois contestataire, populaire et enveloppante, s'installe en quintette et en famille sur la scène de la grande salle Pierre Boulez. Accompagné de ses deux fils et de sa petite fille, le chanteur proposera 2h30 de bonnes vibrations et de brésiliennes évasions. Dans Boomerang, il sera bientôt notre invité, on reste branché.
Le jury du prix Fémina a, conformément aux usages de la saison, décerné son prix annuel, qui est, comme chacun sait, l'une des plus anciennes et des plus cotées des récompenses littéraires.
Et enfin, à la fin, il n'en restera qu'une ou qu'un. C'est aujourd'hui à 13h que les honorables dames du prix Fémina dévoileront leurs lauréats et inaugureront la saison des remises de prix littéraires d'automne. 3 distinctions seront remises en même temps dans les catégories roman français, roman étranger et essai. Parmi les favoris, Nina Bouraoui, Clara Dupont-Mono ou encore Joyce Maynard. Fin du suspense à 13h, à la bonne heure. L'autrice Chimamanda Ngozi Adichie, invitée de Boomerang ce matin pour évoquer la mémoire de son père, un homme très ouvert, on l'a compris, mais aussi très attaché aux traditions de sa culture Igbo, celle d'une ethnie du sud-est du Nigeria. Dans quelle mesure vous est-il arrivé de ressentir ces traditions comme un poids?
Oui et non. Je suis très fière de mon igboïté, d'appartenir à l'ethnie Igbo dont l'histoire, la langue et la culture sont si belles. J'en suis très fière. Mais je ne suis pas d'accord avec certaines choses. La culture Igbo est très misogyne, comme la plupart des cultures du monde, et je me bataille avec ça. J'avais ces conversations avec mon père. Je lui disais, c'est absurde qu'une femme ne puisse pas hériter des biens de sa famille, c'est injuste. Tout ça, on en parle. Mais je ne sens pas de tension entre le fait d'être Igbo et le fait d'être progressiste et d'être parfaitement à l'aise dans le monde, dans d'autres régions du monde. Mais ça, c'est parce que je sais que je viens du pays Igbo. C'est mon ancrage dans la culture Igbo qui me permet d'être à l'aise partout dans le monde.
Mais les traditions, quelles qu'elles soient, qu'est-ce que vous en faites, vous?
Il y a certaines traditions que j'admire, que je trouve magnifiques, comme cette idée de répéter certains gestes de nos arrière-arrière-grands-parents. Mais il y en a d'autres que je conteste. À l'enterrement de mon père, il y a eu les funérailles catholiques parce que ma famille est catholique, mais on a aussi célébré les obsèques dans la tradition Igbo. On a dansé parce que pour les Igbo, quand on met en terre une personne âgée, c'est une célébration. La danse en fait partie et on chante. Alors j'ai dansé, je tenais à la main une photo de mon père, je vocalisais mon chagrin en quelque sorte, j'appelais le nom de mon père. J'ai trouvé ce rituel très beau et vous êtes entourés, on se sent faire partie d'une communauté.
Des rituels littéraires. Est-ce que vous les défiez?
La plupart du temps, oui.
La culture, Chimamanda Ngozi Adichie, ce sont des traditions, c'est aussi tout un système de pensée et de croyances. Vous écrivez par exemple que la Terre est le joyau de la cosmologie Igbo. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oh, I mean that land. I mean this idea. And so, land is a god.
La terre est une divinité dans la cosmogonie Igbo. Mais plus pragmatiquement, les Igbos sont obsédés par la terre. On voit des familles se déchirer pour un minuscule lopin. Ça n'a pas de sens. C'est presque un besoin métaphysique de posséder des terres. Et même dans ma famille élargie, il y a des désaccords sur une parcelle de terrain qu'on est censé partager. Et selon la tradition, on juge la richesse d'une personne aux terres qu'elle possède.
Et quelle importance est-ce que vous lui prêtez à la terre, vous ?
Je ne comprends pas que les gens se battent pour un mouchoir de terre dont ils ne feront rien. Mais sur le plan métaphorique, cette idée d'ancrage dans un terroir, ça me plaît beaucoup. Nous avons notre maison de famille dans la ville natale de nos ancêtres et c'est là que se trouvent les terres de mon père. Et pour moi, c'est un repère important.
Oui, et puis cet enjeu de la terre, elle semble d'autant plus importante quand on pense au passé du continent africain, à son occupation et à son exploitation pendant des siècles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui continue pour vous de lier l'Europe à ce continent ?
L'Europe et l'Afrique sont liés pour toujours, c'est obligé. Quand on sait que les pays en Afrique sont des créations européennes, bien sûr que nous serons toujours liés. L'Afrique francophone sera toujours liée à la France et l'Afrique anglophone à la Grande-Bretagne. Ce qui a changé, c'est que la génération de mon père était tournée vers l'Angleterre, c'était leur matcocagne. À cause du colonialisme, alors que ma génération s'est tournée vers l'Amérique. De ce fait, les relations ont changé parce que nous avons davantage d'options auxquelles aspirer.
Diriez-vous de la part des États-Unis, c'est une autre forme de colonisation ?
J'aurais tendance à dire oui. Mais j'ajouterais que ça ne se limite pas à l'Afrique. L'Amérique colonise le monde entier. Mais elle le fait, c'est bon pour elle, à travers son soft power, le pouvoir de ses influences culturelles. L'Amérique arrive à exporter sa culture, sa musique, ses films, sa littérature dans le monde entier. Mais elle exporte aussi ses problèmes dans le monde. Et tous, nous importons chez nous les problèmes de l'Amérique.
En cas de colonisation et d'exploitation, il faut penser à la question de la rétribution. Récemment, le président Emmanuel Macron a annoncé la restitution de 26 œuvres d'art pillées au Bénin. D'autres initiatives comme celle-ci devraient suivre, notamment avec la Côte d'Ivoire. Restituer ces œuvres, quel enjeu est-ce que c'est pour vous ?
Je crois qu'il est important d'avoir ce débat et j'apprécie le geste du président Macron. Parce que c'est une preuve de respect, mais ça dit aussi, nous comprenons qu'il est temps de changer notre manière de parler des pays anciennement colonisés. C'est important aussi que les pays européens respectent les valeurs qu'ils affichent et les incarnent. On ne peut pas prétendre être un pays attaché aux droits humains, aux droits civiques, à l'état de droit et refuser de reconnaître les horribles crimes qu'on a commis dès lors qu'ils ont été commis il y a 100 ans, parce que les conséquences de ces crimes perdurent. Donc le président français s'empare du sujet. Je trouve ça très encourageant, parce que rappelez-vous, certains de ses prédécesseurs se sont tristement illustrés sur la question, comme Sarkozy qui va en Afrique pour expliquer aux gens que l'Afrique n'a pas d'histoire. Grave.
Ça pose une question assez passionnante, hein, à savoir le lien qu'on entretient avec le passé d'un point de vue individuel et collectif. J'ai l'impression que la question se pose de plus en plus aujourd'hui. Et je pense évidemment à la tentation que pourraient avoir certains de vouloir effacer certaines figures, certaines œuvres, certains mots. Cette expression de cancel culture, qu'est-ce qu'elle vous évoque à vous ?
Ah.
J'ai beaucoup à dire là-dessus. Mais il y a des nuances, des différences. Pour certaines statues qu'on a fait tomber, j'étais d'accord. Parce que je souhaite que ces statues soient enlevées d'une grande place et transférées dans un musée. Je ne veux pas les effacer, mais je ne veux pas qu'on les honore. Quand on érige des statues, c'est pour célébrer ce qu'elles représentent. Mais je pense aussi qu'on peut facilement aller trop loin, c'est le problème. En corrigeant les torts historiques, il faut veiller à ne pas infliger de torts contemporains.
Il
faut donc de la nuance dans les débats. On ne peut pas décréter d'emblée hors de question de parler de ça. C'est ce genre d'attitude qui favorise l'émergence de la cancel culture quand on vous interdit de poser des questions, quand on vous dit que le sujet est clos. Cette attitude nuit à tout le monde. C'est nous-mêmes que nous effaçons. Il ne s'agit pas seulement des gens sur les réseaux sociaux qui disent « un tel a eu un mot de travers, par conséquent il doit perdre son emploi, ses enfants doivent quitter leur école, tout le monde doit être effacé ». Mais ceux qui procèdent à cet effacement, eux aussi ont peur de dire le mot de travers. C'est un peu comme vivre sous une dictature implacable. Ça me fait penser à ce que je lisais sur la RDA, l'ex-Allemagne de l'Est, où tout le monde se méfiait de tout le monde. Et le résultat, c'est que nous souffrons tous.
L'une des questions que je me pose en vous écoutant ce matin, centrale, Chimamanda Ngozi Adichie, que faire du passé ?
Nous devons assumer notre passé, vivre avec lui. Je crois que c'est Faulkner qui a dit « le passé n'est même pas passé ». Par exemple, on ne peut pas parler de la situation actuelle du Nigeria sans parler des raisons qui ont conduit le Nigeria à cette situation. Nous avons longtemps été colonisés et on oublie que la colonisation était une dictature, ce n'était pas une démocratie. À la fin de l'ère coloniale, nous devenons indépendants et tout à coup, comme par magie, on est censé pratiquer la démocratie. Mais nous n'avons pas eu de modèle de démocratie parce que le colonialisme n'était pas un système démocratique. On ne peut pas parler du présent sans parler du passé. Je suis très familière de la nostalgie et très attirée par ce sentiment. Ça fait partie de ma créativité. Je regarde toujours en arrière pour comprendre comment on est arrivé là. Mais on regarde aussi en arrière pour se projeter et mieux faire les choses, pour rendre l'avenir meilleur.
On va reparler ensemble et à tous les temps du passé, du présent et même du futur juste après Nina Simone à ses tout débuts en 1959. Little Girl Blue, vous êtes sur France Inter avec Chimamanda Ngozi Adichie. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Sit there, count your fingers. What can you do? Happy little girl blue. Sit there, count the raindrops falling on you. It's time you knew. Getting slender. Why won't somebody send a tender blue boy to
Il n'y a pas à dire et ça n'a pas changé depuis la dernière fois qu'elle est venue à ce micro. Elle en impose, solaire, posée, stylée, le sourire prix Nobel et l'œil grand couturier. On a envie de lui ressembler avec sa veste verte, fluorescente. Ce matin, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie, invitée de Boomerang ce matin, pour revenir sur ce livre « Notes sur le chagrin » que vous avez écrit, Chimamanda, à la disparition de votre père. Quelle expérience physique est-ce que c'est le chagrin ?
J'étais très surprise par cette dimension physique du chagrin. Je me souviens que plusieurs jours après, j'avais les flancs douloureux, tellement j'avais pleuré. Mon frère m'a appris qu'on pleurait avec nos muscles, ce qui expliquait mes douleurs aux côtés. Je me suis dit, ah bon ? Et j'avais aussi un poids terrible sur la poitrine et mon corps semblait peser 4 fois plus lourd. Sortir du lit était physiquement une épreuve. J'avais l'impression que mon corps n'arrivait plus à se mouvoir.
Et cette question du corps, elle est d'autant plus cruciale que pendant le Covid, vous étiez loin du corps de votre père. Vous ne pouviez le voir que par écran interposé. Cet éloignement physique, comment est-ce que vous l'avez vécu ?
Ça a rendu encore plus surréaliste un événement qu'il était déjà. La première réaction à la mort de quelqu'un qu'on aime, c'est le déni. Je me rappelle, après l'avoir appris, je me répétais, c'est pas possible. Et le fait de voir mon père sur l'écran de mon téléphone rendait tout ça encore plus irréel. Ajouté au fait que je ne pouvais pas aller chez moi, je me trouvais aux États-Unis, mon père est mort au Nigeria, les aéroports étaient fermés, un grand silence pesait sur le monde, ça renforçait le côté irréel de la chose. Et après l'annonce de sa mort, je me réveillais en me demandant, est-ce que c'est vraiment arrivé ?
Oui. Pourquoi est-ce qu'on a tant besoin de la proximité du corps de l'autre, Chimamanda Ngozi Adichie ? C'est une question que vous êtes forcément posée.
Parce que nous sommes des êtres humains et que notre humanité trouve écho dans l'humanité des autres. J'ai appris pendant cette pandémie combien nous avions besoin des autres.
Mais dans un espace mondialisé, dans un espace hyper connecté, de plus en plus, est-ce que c'est pas difficile de conserver cette proximité du corps ?
Ça ne devrait pas l'être. C'est pour ça que je dis souvent, arrête avec les réseaux sociaux, sors voir tes amis et prends-leur la main. À la mort de mon père et à cause de l'interdiction de voyager, quand finalement on a tous pu se retrouver au Nigeria avec mes frères et sœurs et qu'on a pu s'embrasser, se serrer dans les bras, ce qu'on n'avait pas pu faire pendant des mois, c'était si fort, on se sentait moins seul. C'est tellement important de savoir qu'on n'est pas seul.
Et la mémoire du corps aussi. Qu'est-ce que vous ressentiez physiquement quand votre père était à vos côtés ?
J'étais sa fille chérie. Mon père était assis sur le canapé, je me perchais sur l'accoudoir et je jouais avec ses cheveux. Je n'arrêtais pas de l'embêter, le pauvre homme. La joie, ce que je ressentais à ses côtés, c'était la joie, un parfait contentement.
Qu'est-ce que c'est au fond un corps pour vous ?
Je ne sais pas, c'est quelque chose qui nous est donné et c'est la seule chose dont on soit sûr. Je crois en une certaine spiritualité. Nous ne sommes pas uniquement des êtres physiques. Nous sommes aussi des êtres spirituels et pleins d'émotions. Mais le corps, c'est notre véhicule.
C'est aussi quelque chose qui nous rappelle qu'on est mortel, non ?
Oui, c'est tout ce qu'on a. Et c'est aussi ce qui va disparaître parce que nous allons tous mourir. Je suis tellement consciente de la mortalité. Depuis la mort de mes parents, je pense sans cesse à la mort. Je regarde des photos de ma mère et je ne veux pas penser à ce qu'il advient du corps quand on meurt.
Quand est-ce que vous vous sentez vivante, vous, plus vivante que jamais ?
Quand je suis entourée par les gens que j'aime, qu'ils sont heureux, et donc je suis heureuse, là je me sens vraiment vivante. Je n'ai pas ressenti ça depuis la mort de mes parents, je dois l'avouer. Quelquefois on se rappelle très distinctement un moment où on a éprouvé cette joie d'être en vie. Pour moi, c'était en décembre 2019. Peu avant le Covid et le confinement, toute ma famille était réunie dans la ville de nos ancêtres. Mon père buvait du champagne, il ne boit pas vraiment, juste un peu. Il y avait des bons plats et on riait, on se taquinait et je me suis sentie tellement vivante.
Mais c'est intéressant parce que dans Notes sur le chagrin, vous écrivez que cette période associée à la perte d'être cher nous a rappelé à quel point la vie est mince comme du papier. Cette prise de conscience, qu'est-ce qu'elle a changé en vous ?
Je crois que je suis quelqu'un d'autre et que je resterai cette autre personne jusqu'à ma mort. J'en suis convaincue. J'ai lu que si vous aimez vos parents et qu'ils meurent, vous en êtes changé à jamais. Je crois que c'est vrai.
Mais diriez-vous que ça a aussi eu une incidence sur votre façon d'envisager l'écriture, sur votre façon de travailler?
Yes, I think so. I think there's a
sense in which I'm. Dans le sens où je n'ai plus envie de me retenir. J'ai décidé de me débarrasser de cette retenue, cette contrainte. Je veux que tout sorte. Je suis passée d'une sorte de minimalisme lucide à un maximalisme intégral, parce que franchement, la vie est courte, alors j'ai bien l'intention de réaliser ce que je veux exactement comme je l'entends.
Chimamanda Ngozi Adichie, pourquoi est-ce que vous écrivez au fond? Vous avez fini par le savoir?
Non,
j'écris parce que j'y suis poussée. J'écris parce que je n'imagine pas ma vie sans l'écriture. J'écris parce que mes ancêtres veulent que j'écrive.
Pour laisser une trace aussi.
Je ne pense pas que ce soit l'intention initiale. Mais si c'est un effet secondaire de l'écriture, ça me va. C'est vrai que l'idée qu'après ma mort, mes livres resteront, ça console un peu, peut-être.
On a parlé du présent et du passé dans cet entretien. Qu'en est-il du futur? Quand vous pensez au futur, Chimamanda Ngozi Adichie, qu'est-ce que vous voyez?
Quand je suis pessimiste, je m'inquiète beaucoup. Je ne veux pas que ma fille vive dans un monde où l'on encourage les gens à se censurer. J'ai peur de ça. Et d'autres choses m'inquiètent. L'avenir de la planète, tout ça. Mais le futur, pour moi, c'est aussi de nouvelles possibilités. Je veux encore raconter des histoires, écrire d'autres livres. J'espère vivre assez longtemps pour raconter toutes les histoires que j'ai en tête.
Merci infiniment, Chimamanda, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Et merci à Eve Dare, votre interprète ce matin. Je rappelle que Note sur le chagrin, votre nouveau livre, vient de paraître aux éditions Gallimard dans une tradition de Mona, de Pracontal. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Je ne veux pas y faire face. Je préfère me fuir, jusqu'à ce que je m'efface. Je préfère ne rien dire. Je préfère oublier. Je préfère me mentir, être une chose qu'une chose. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi, jamais faiblir? Dis-tu, fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi, tu fais quoi toujours pour obéir? Sur mon épaule, tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
Un fond de tristesse qui va me die. Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille? Une dernière larme, je me relève toujours fier. Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Et je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête. Je ne dors plus, je ne bois plus, et voilà que mon cœur part en sucette. J'ai tout fait pour rien lâcher, mais tu sais, toi tu connais comment ouais, je suis épuisé.
Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi, jamais faiblir? Dis-tu, fais quoi pour pas périr?
Pause, Eddie Depreto et Iseult, 9h40 sur France Inter. Et Sonia De Villers, l'instant M, ça va Sonia?
Oui, on est au rendez-vous. Et on se retrouve demain, salut Augustin.
À demain.